9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. On va revenir sur ce refus d'obtempérer et les tirs policiers qui ont causé la mort d'une passagère. Le commandant de police, Christophe Rouget, du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, est en direct avec nous ce matin. Et puis le Parlement européen a voté cette semaine l'interdiction, en 2035, dans toute l'Union européenne, de commercialiser des voitures essence, diesel ou hybride. Une sacrée révolution dont on va explorer toutes les conséquences avec Valérie Mass, la fondatrice de WeNow. Et on terminera l'émission avec le philosophe Christophe Bouton qui publie « L'accélération de l'histoire ». L'histoire accélère-t-elle vraiment ? C'est ce qu'on va voir.
Europe 1.
Bonjour Christophe Rouget.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes commandant de police, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Alors un conducteur qui refuse d'obtempérer, des policiers qui tirent, le conducteur est gravement blessé, une passagère meurt. Quelle a été votre première réaction en l'apprenant en tant que commandant de police ?
D'abord, j'ai tout de suite remarqué l'hystérisation des débats. Voilà, on est dans une société du buzz et on a cherché tout de suite à trouver des coupables avant même qu'on ait le temps de l'enquête, le temps de la recherche de la vérité. Ma première pensée, elle a été d'abord pour cette victime, cette jeune femme qui est décédée, et pour sa famille, qui a tout de suite identifié, on l'a vu par le biais de son avocat, que le premier responsable, c'était le conducteur. Et ensuite, mes pensées sont allées vers les policiers qui sont intervenus sur ce jour-là et qui ont dû faire usage de leur arme. Vous savez, tous les policiers qui partent le matin, ils veulent jamais sortir leur arme, ils ne pensent pas qu'ils vont avoir à tirer, et ces policiers vont être traumatisés toute leur vie. Parce que le policier sur le terrain, c'était des policiers du quotidien avec leur VTT, ils ne savent pas qu'ils ont affaire ce jour-là. Si c'est un terroriste, si c'est un braqueur, si c'est un multirécidiviste, un chauffard. Et à une fraction de seconde, ils ont dû prendre une décision pour essayer de sauver la vie de nos concitoyens et pour essayer de se protéger. Et donc j'ai pensé à eux immédiatement à ce moment-là.
Trois hommes avaient déjà trouvé la mort depuis le mois de mars sous les balles des policiers au cours de contrôles routiers. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter aussi pour les policiers ?
Oui, vous avez raison, il y a de quoi s'inquiéter parce qu'on est un pays qui est profondément touché par les refus d'obtempérer. 27 000 l'année dernière, un toutes les 20 minutes. On a 18 policiers qui sont morts depuis les années 2000 dans le cadre de refus d'obtempérer. Et nous, ce que nous voulons savoir, c'est pourquoi la France est plus touchée que d'autres pays par ces refus d'obtempérer. Est-ce que c'est à cause de la drogue, de l'alcool, du permis à points, je ne sais pas. Mais nous demandons qu'il y ait une vaste enquête qui permette de connaître les causes de ces refus d'obtempérer, et ensuite qu'on puisse prendre des mesures, des plans de prévention, des mesures législatives qui permettent de mieux protéger les Français et de mieux protéger les policiers. Est-ce que par exemple, si c'est lié à l'alcoolémie, on ne devrait pas mettre des éthylotests anti-démarrage dans les véhicules dès que vous avez une condamnation pour une alcoolémie ? Oui, il y a des mesures qu'on peut mettre en place et on demande cette vaste enquête pour mieux protéger les Français. Parce que moi, je pense, vous voyez, aux deux victimes, cette jeune femme qui est morte, qui est de la Mégisserie à Paris il y a une semaine, ou aussi à Antoine Allégo, le fils du chef cuisinier. Ils sont morts parce que des gens ont refusé de s'arrêter, ils ont continué leur route, et ce jour-là, ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, ils sont morts. Et je voudrais que le monde politique, justement, s'interroge davantage lorsqu'on a ces décès, sur quelles mesures on doit mettre en place. Le monde politique, il doit être là pour dire quelles mesures on doit mettre en place pour mieux protéger les Français et les policiers.
Surtout que le refus d'obtempérer, mais justement, la loi a changé. Hein. Jusqu'en 2017, le cadre légal pour les policiers, c'était celui de la légitime défense. Il est commun à tout le monde. Hein. Ça nécessite une réponse proportionnée et après, sommation. Mais depuis la loi de 2017, votée après qu'un policier avait été grièvement brûlé par un cocktail Molotov, les policiers sont autorisés à ouvrir le feu si un véhicule n'obtempère pas. C'est bien ça, hein ?
Alors, c'est pas tout à fait ça. La légitime défense, elle demeure le principe général. Mais et c'est pas du tout parce que des policiers ont été blessés à Viry-Châtillon qu'on a modifié cette loi. Je veux juste rappeler le contexte. En 2017, on est dans une crise aiguë du terrorisme islamiste. On a des attentats qui viennent être commis avec des voitures, parfois des camions, hein, des véhicules béliers, des voitures à Berlin, souvenez-vous, à Londres, à Nice. On a des centaines de morts qui sont liées à l'utilisation de véhicules qui fonce dans la foule. Donc à ce moment-là, le pouvoir public dit on va mettre en place une loi pour, lorsqu'on ne peut pas faire autrement, qu'il y a une nécessité absolue d'immobiliser le véhicule et qu'on ne peut pas faire autrement que le faire par mare-feu, on puisse utiliser cette arme à feu. Et en plus, on harmonise la législation entre les gendarmes et les policiers à l'époque qui n'est pas la même. Alors j'ai vu ensuite, on a dit, ah, les tirs ont augmenté en 2017. Mais cette analyse, elle est totalement tronquée. Pourquoi ? Parce qu'en 2017, cette augmentation des tirs, elle est liée à toutes les utilisations des armes. C'est-à-dire que on compte l'utilisation de l'arme du policier qui a tiré sur un chien dangereux, sur un braqueur, pas forcément sur un refus d'obtempérer. Et donc, effectivement, dans ce contexte où tous les jours on avait en Europe des policiers qui étaient attaqués avec des armes blanches, par exemple, on a une augmentation de l'utilisation des armes. Mais cette analyse, elle est ensuite tronquée parce que depuis 2017, cette utilisation des armes ne fait que baisser. Et souvent, ce qu'on a entendu dans les médias ou sur les réseaux sociaux, ben, ne précisait pas ça, et on a eu derrière des manipulations politiques.
Mais j'en viens au refus d'obtempérer lui-même. Hein. Les policiers sont autorisés à tirer si les occupants de la voiture sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à la vie, alors des policiers eux-mêmes, à leur intégrité physique ou à la vie d'autrui. En quoi c'est différent du délit de fuite ?
Alors le délit de fuite, si jamais vous, par exemple, vous avez un accident de la route et puis vous partez, voilà, c'est vous ne restez pas sur place pour faire le constat, pour voir si les personnes étaient blessées, c'est totalement différent. Voilà, c'est vous avez rayé la voiture de votre voisin de parking et vous partez, c'est un délit de fuite. Le refus d'obtempérer, c'est un ordre clair qui est donné par les forces de l'ordre à un véhicule de s'arrêter. Et on voit bien que le refus d'obtempérer, il est très dangereux. Et aujourd'hui, il y a des gens, bah oui, ils disent qu'il faudrait tirer dans les pneus, il va s'arrêter la voiture. Non, d'abord un policier, tout le monde sait qu'on ne peut pas tirer dans les pneus d'un véhicule et qu'ensuite un véhicule, il continue sa trajectoire et que si on tirait dans les pneus, il pourrait, par exemple, s'encastrer sur la terrasse d'un café. Donc il faut rester raisonnable et ne pas raconter n'importe quoi sur les refus d'obtempérer. Et j'inverserai la question, si jamais des policiers, demain, sur la voie publique, disent à un véhicule, arrêtez-vous, et qu'ils ne font rien, et que quelques centaines de mètres plus loin, ben ce véhicule, il écrase un enfant qui passe sur la route. Mais tout le monde dira, mais que fait la police ? Pourquoi n'ont-ils pas interpellé cet individu dangereux ? Vous voyez, c'est toujours quelque chose de très complexe. Le policier, à une fraction de seconde, il doit prendre une décision pour protéger la vie de nos concitoyens.
Mais alors, Christophe Rouget, est-ce que le bon moyen, justement, qu'il y ait moins de refus d'obtempérer, vous disiez au début de cet entretien qu'il y en avait beaucoup trop en France, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux dire clairement qu'en cas de refus d'obtempérer, on risque de se faire tirer dessus ? On peut se faire tirer dessus ?
Mais je crois que les gens le savent. Et malheureusement, on a des voyous qui et la grande majorité des Français, l'immense majorité des Français, lorsque les policiers et les gendarmes leur demandent de s'arrêter, présentent leurs papiers et s'arrêtent normalement. Mais il faut que nous arrivions à mieux lutter contre ces voyous de la route, ces chauffards, ces meurtriers parfois. Et donc c'est pour cela que nous réclamons vraiment une grande étude pour mettre en place des mesures qui permettent de mieux prévenir ce phénomène plutôt que d'avoir des incantations qui sont inutiles. Non, il faut vraiment protéger les Français, protéger les policiers par une vaste enquête et des mesures législatives.
Christophe Rouget, il y a une doctrine en France du maintien de l'ordre, on en discute suffisamment, elle crée parfois des polémiques, elle aussi, mais est-ce qu'il y a une doctrine claire en matière de police de voisinage ? Parce que c'est ça, non ? Vous l'avez dit, c'était des policiers sur des VTT, c'est de la police de voisinage.
Oui, certains ont dit, ah ben non, il faut arrêter pour régler le problème des refus d'obtempérer, il faut mettre de la police de proximité. Mais en l'occurrence, la plupart de nos collègues, policiers ou gendarmes, qui sont victimes des refus d'obtempérer, c'est justement ces gendarmes dans nos campagnes, c'est les policiers qui patrouillent en centre-ville, qui sont victimes de ces contrôles, parce qu'ils sont là pour protéger nos concitoyens, ils voient bien que ce véhicule, il est dangereux, et ils essayent de l'intercepter. Donc, c'est pas sur un problème de police de proximité ou de police du voisinage, c'est un problème d'ordre, la force doit rester à la loi, et il faut qu'on arrive dans ce pays à ce que la loi soit mieux respectée par ces délinquants.
Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques autour de la police. Il y en a eu aussi avec le Stade de France. Vous avez beaucoup de travail, vous, en tant que secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure.
Oui, vous savez, comme moi, que en période électorale, on a une hystérisation des débats, on a le moindre fait divers qui est instrumentalisé, on est dans des débats manichéens, et c'était toujours compliqué, mais je crois que au lieu du buzz, ce qu'attendent les Français aujourd'hui, c'est que justement les hommes politiques plutôt que de faire du stand-up dans certains médias, ils attendent qu'ils proposent des solutions. Ils attendent, les Français, qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'on va faire pour éviter que nos enfants ils soient écrasés par des chauffards? Qu'est-ce qu'on pourra faire pour que les rodéos qui sont incessants dans nos villes cessent et qu'on puisse vivre en toute tranquillité? Et c'est pour cela qu'il faut que l'ensemble des acteurs de la politique se saisissent de ces sujets de sécurité parce qu'il y a une attente forte de nos concitoyens.
Merci Christophe Rouget d'avoir bien voulu répondre à mes questions. On fait une pause, on se retrouve juste après. Il va encore être question de voitures, mais des voitures thermiques qui vont disparaître d'ici 13 ans. J'ai rendez-vous avec Valérie Mass.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
L'interdiction de la commercialisation des voitures essence, diesel et hybrides a été votée mercredi par le Parlement européen à compter de 2035, dans 13 ans donc. Voilà une décision historique qui va avoir des conséquences sur l'industrie automobile. Bonjour Valérie Mass.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes diplômée d'HEC, vous avez passé 15 ans chez Total avant de fonder WeNow qui développe une technologie permettant aux conducteurs de réduire leurs émissions de CO2. Vous avez d'ailleurs reçu l'année dernière le trophée des femmes de l'industrie dans la catégorie développement durable. Les conséquences, vous les connaissez, vous, déjà ?
Absolument. Enfin, on les connaît. On va en découvrir, à mon avis, beaucoup. Mais effectivement, il y en a quelques-unes qu'on peut imaginer.
Les voitures essence, diesel et hybrides ne seront pas interdites pour autant. Hein. On pourra continuer de les utiliser, mais on ne pourra plus en vendre ni en acheter. En 15 ans, elles disparaîtront d'elles-mêmes parce que l'idée, c'est qu'en 2050, c'est pour ça qu'on a choisi 2035. En 2050, on doit pouvoir atteindre la neutralité carbone.
Oui, parce qu'en fait, cette loi, elle vise à permettre de se préparer au réchauffement climatique et donc de l'anticiper et de le réduire au maximum. Et c'est une chose qui est préconisée par les experts, que d'électrifier le transport, qui est un des secteurs les plus émetteurs de CO2.
Mais elles vont être remplacées par des voitures zéro émission, c'est-à-dire alors électriques, vous l'avez dit, mais aussi à hydrogène, au carburant de synthèse. Tout est possible.
Aujourd'hui, tout est possible. Les technologies ne sont pas prêtes. La seule technologie vraiment prête, c'est l'électrique qu'on connaît vraiment très bien, puisqu'on la connaissait même avant les thermiques.
Il paraît, oui. Les premières, racontez, puisque j'en sais bien plus que moi.
La première voiture, c'est une voiture électrique. Elle s'appelait même la Jamais Contente, parce qu'elle démarrait quand elle voulait. Elle allait très vite. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup de recharge. Enfin, elle ne gardait pas son énergie très longtemps. Et finalement, quand on a inventé le pétrole, enfin en tout cas, quand on l'a trouvé, on a découvert la quantité d'énergie contenue dans un si petit volume. Et c'est ça qui a fait cette pérennité sur aussi longtemps.
Alors sur la décision qu'ont prise les députés cette semaine, ils ont quand même fait une exception hein, pour les voitures fabriquées à moins de 1000 exemplaires par an. Elles seront exemptées, c'est ce qu'on appelle l'amendement Ferrari, puisqu'il a été défendu par les députés italiens et que les Ferrari, comme on sait, sont fabriquées à moins de 1000 exemplaires par an. Elles pourront continuer d'être thermiques.
Alors ce qu'on a vu effectivement, c'est beaucoup de lobby des constructeurs parce que il faut quand même avoir en tête, par exemple en France, que la filière de l'automobile, c'est à peu près 2 millions d'emplois. Donc c'est quand même un sujet extrêmement sensible que de prendre des décisions aussi fortes. Moi, ce que je reconnais de manière incroyable, c'est cette décision historique que de décider d'arrêter malgré effectivement tous ces lobbies. Alors tout n'est pas encore fini puisqu'il y a encore des choses qui peuvent se décider dans les prochaines semaines. Et puis après, il va falloir le transmettre dans chacune des lois de chacun des pays.
Oui, on n'y est pas. Mais néanmoins, on peut imaginer, vous l'avez dit, les conséquences. Si on se retrouve avec 15 millions de voitures électriques en France, hein, admettons, est-ce qu'on aura assez d'électricité pour les faire fonctionner ?
Alors, il y a un rapport RTE qui est sorti, je crois, en 2019, qui disait que finalement, la consommation de ces 15 millions de véhicules, c'était même pas 10% de la consommation d'électricité en France. Donc pour l'ensemble des pays européens, aujourd'hui il y a à peu près 36 millions de véhicules en circulation en Europe. Ça reste apparemment relativement intéressant. Ce qui est plus intéressant encore, c'est de réfléchir différemment. C'est pas de se dire on va transformer tous les véhicules, parce qu'en fait, en réalité, pourquoi on demande d'électrifier ? C'est pour éviter les émissions de CO2. Or, ça veut dire aussi peut-être moins produire de véhicules. surtout des batteries, puisqu'on le sait, la production de batteries est très énergivore, surtout quand elle est produite en Chine, avec des centrales à charbon. Et donc, l'idée est plutôt de repenser la mobilité, d'être beaucoup plus sobre, et donc pas forcément de transformer tous les véhicules actuels en véhicules électriques. C'est, on interdit les véhicules thermiques, mais ça ne veut pas dire qu'on veut remplacer tous les véhicules par des véhicules électriques.
Oui, on verra que ce n'est pas aussi facile que ça. Mais on les rechargera où ? Parce qu'on dispose de 58 000 bornes de recharge. Il en faudra beaucoup plus.
Alors, il en faudrait à nouveau beaucoup plus. J'espère qu'on ne va pas construire autant de bornes de recharge que de points de stations-service. D'ailleurs, on le sait, une recharge de véhicules électriques, ça prend du temps. Ce n'est plus le même temps que sur les stations-service actuelles. Hein. Ça prend finalement pas beaucoup de temps de recharger son carburant. On espère que les véhicules électriques se rechargeront le soir, dans des heures creuses, et on pourra faire justement des transferts avec l'électricité aussi des logements. Donc en fait, les voitures vont être des batteries sur pattes, enfin sur roues, qui vont nous permettre aussi de stocker l'énergie non durable, c'est cette énergie éolienne ou solaire par exemple, qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à stocker quand même. Donc ça va nous permettre normalement de gérer ces pics-là. Ce qu'il faudrait éviter en tout cas, c'est de faire de gros travaux d'infrastructure pour aller tirer des gros câbles sur les infrastructures par exemple autoroutières, pour essayer d'avoir le même service qu'actuellement pour des carburants, parce que là pour le coup on va faire des énormes travaux. Il faut savoir que ces stations-service, elles sont loin des villes et donc loin des productions électriques. Et pour recharger, on a besoin de beaucoup de puissance. Donc, il serait de bon ton de réfléchir et de donc travailler à expliquer à chacun des Français, à chacun des Européens, pourquoi on fait ça, pour que chacun réfléchisse aussi sa mobilité de manière différente.
Mais l'idéal, ce serait peut-être de recharger ces voitures-là chez nous, à domicile, pendant la nuit.
Ah, ben alors c'est l'objectif effectivement, c'est que chacun se les recharge, notamment pendant ces fameuses heures creuses, et que alors il y a pas mal de systèmes qui sont en test. Hein, quand vous allez prendre le train, que votre voiture se recharge éventuellement avec les panneaux solaires à la gare où vous êtes, peut-être à l'heure prévue où vous allez arriver pour que votre voiture soit remplie d'électricité au moment où vous arrivez. Et peut-être que pendant le temps, vous n'êtes pas là et que vous n'avez pas besoin de cette électricité. Cette électricité est utilisée par une autre voiture, utilisée par le bâtiment. Enfin voilà, donc cet échange intelligent de l'électricité est déjà en test. On a quelques années pour avancer sur tous ces systèmes.
13 ans exactement. 13 ans. On fait une pause, Valérie, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Et avec Valérie Mas, qui est la fondatrice de WeNow, on revient sur l'interdiction de la commercialisation des voitures essence, diesel et hybrides, qui a été votée cette semaine par le Parlement européen, à compter de 2035. Donc, le paysage devrait considérablement changer. Toutes les voitures thermiques ne pourront plus être commercialisées. On imagine d'autres solutions, notamment les voitures électriques. Quels bénéfices compte-t-on en retirer sur le plan écologique précisément ?
Alors, on compte en retirer déjà une réduction forte des émissions de CO2, puisque en fait, à chaque fois que vous consommez du carburant, bah, c'est du CO2. Pour vous donner quelques ordres d'idées, on est aujourd'hui à peu près à 10 tonnes de CO2 émises par Français chaque année. Et dessus, enfin sur ces 10 tonnes, la voiture représente 2 tonnes en moyenne. Donc c'est énorme, c'est un gros poids. Si on a des voitures entre guillemets zéro émission, on va diminuer drastiquement cette consommation. Pas forcément à la production de la batterie et de la voiture à nouveau.
Oui, on reviendra parce que ça c'est un vrai problème.
Hein. C'est
un vrai
problème.
Mais même si l'électricité qui est consommée par la voiture est produite avec des centrales à charbon, et c'est le cas dans un certain nombre de pays d'Europe, oui. On y gagnera quand même ?
Alors, il a été prouvé par un certain nombre d'études qu'effectivement, on continue à y gagner, à condition qu'on ait une certaine activité avec ce véhicule. Donc, ça veut dire se poser quand même la question, quand j'achète un véhicule, est-ce que c'est intéressant que j'ai un véhicule et que je le possède ? Donc, en gros, j'absorbe un certain nombre de ressources qui ont été extraite de la terre pour mon usage personnel, parce que si je l'utilise pas suffisamment, effectivement, ça risque d'être beaucoup moins intéressant. En revanche, si je l'utilise suffisamment, oui, effectivement, même dans les pays à forte dotation charbon, il a été prouvé qu'un véhicule électrique est quand même plus intéressant en matière d'émissions de CO2, j'entends, qu'un véhicule thermique.
Alors, il reste la fabrication de la voiture électrique et de sa batterie. Et ça, ça envoie pas mal de CO2 dans l'atmosphère. Hein, mais enfin, ça en envoie moins quand même. Là aussi, c'est rentable ?
Alors aujourd'hui, sur la production d'un véhicule thermique versus un véhicule électrique, effectivement, un véhicule électrique arrive avec une dette, entre guillemets, puisqu'il a produit beaucoup plus d'émissions de CO2.
Oui, la fabrication de la voiture thermique, c'est 12 tonnes de CO2, alors que pour une voiture thermique, c'est seulement 6 tonnes.
Absolument. Alors, ça dépend des experts et on n'a pas tous les mêmes calculs, mais effectivement, il y a quand même une grosse dotation en CO2. Sauf qu'à partir du moment où elle est mise à la route, tout le CO2 n'existe plus. En tout cas, on ne produit plus de CO2, même si, effectivement, l'électricité reste potentiellement produite par du charbon. Attention quand même, aujourd'hui, on est sur de la production chinoise, notamment sur les batteries, et on ne sait pas encore comment on va produire à l'avenir des gros volumes. On le voit aujourd'hui, hein, les flottes d'entreprises par exemple sont soumises à des lois qui les poussent à électrifier leurs véhicules et elles ont du mal à recevoir de nouveaux véhicules parce que les constructeurs ont du mal à les produire. Donc...
Alors ça va avoir effectivement des conséquences économiques considérables. Hein. Il va falloir fabriquer des batteries de voitures électriques. Les Chinois ont beaucoup d'avance sur nous. Fabriquer une voiture électrique, ça nécessite aussi moins de main-d'œuvre. On va perdre énormément d'emplois.
On dit 40% de main-d'œuvre. Ce qui est sûr, c'est que la filière aujourd'hui, c'est un peu une pieuvre tentaculaire. Hein. Je parlais tout à l'heure de 2 millions d'emplois. Il y a des fournisseurs de pièces détachées. Il y a tout le monde de la station-service également. Enfin, en fait, ça se ramifie un peu partout. On va perdre des emplois, mais on va en gagner. Mais dans d'autres domaines, alors effectivement, un véhicule thermique, c'est à peu près 2000 pièces en mouvement. Un véhicule électrique, c'en est 20. Donc, on voit bien
oui,
aussi
c'est
la
batterie. Vous l'avez dit, c'est une batterie sur pattes.
C'est une batterie sur pattes. Donc, on n'a pas besoin de grand-chose. Donc, effectivement, même les garagistes vont devoir changer. Les mécaniciens.
Il n'y aura plus de mécaniciens.
Alors, il n'y aura plus de mécaniciens. Potentiellement si, puisqu'il va falloir apprendre quand même à utiliser correctement, peut-être à recharger correctement, peut-être à remplacer sa batterie. Enfin, il y aura d'autres métiers. On le voit par exemple sur les stations-service aujourd'hui, déjà 100% électrique, parce qu'il commence à y en avoir. Il va falloir accompagner le client qui ne sait pas vraiment comment se brancher, sur quelle borne se brancher.
On apprendra vite ça quand même.
On va apprendre vite et puis après on reste quelques heures ou en tout cas quelques minutes, longues minutes sur la station. Donc on peut avoir de nouveaux métiers qui vont arriver.
Valérie Mas, parmi les éléments qui rentrent dans la fabrication des batteries électriques, des voitures électriques, il y a des métaux rares dont l'extraction est très polluante. Il y a du lithium, il y a du cobalt, il y a du nickel. Il va falloir les importer parce que ce sont les Chinois qui maîtrisent cette filière, ce n'est pas nous. On va avoir besoin de terres rares dont les Chinois contrôlent 50% de la production. Est-ce que les constructeurs européens sont prêts ?
Alors, il y a effectivement un gros travail parce que effectivement les constructeurs européens et même l'Europe au sens large a commencé à y réfléchir. Ça fait pas suffisamment longtemps, mais on commence à voir des grands acteurs de la batterie, de la R&D sur le sujet. On n'est pas encore prêt et on n'a surtout pas les ressources effectivement sur les territoires. Donc, on va peut-être inventer de nouvelles technologies qui feraient appel peut-être à des métaux différents. Et à nouveau, la technologie, c'est pas la solution pour le réchauffement climatique. À nouveau, ça va être la sobriété. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire inventer quelque chose qui soit vendeur aussi pour le grand public. Ne refaisons pas la taxe carbone qui a généré les gilets jaunes parce que manque de compréhension. Donnons envie de changer cette mobilité. Aujourd'hui, dire qu'on supprime les véhicules thermiques, on a plutôt l'impression de perdre un avantage acquis plutôt que d'avoir envie d'aller vers ça. Donc, essayons de vendre ce projet-là.
Surtout qu'une voiture électrique risque de coûter plus cher qu'une voiture thermique. Hein. Le prix d'achat pourrait bien être un obstacle majeur. Il va donc certainement, d'ici 13 ans maintenant, il va falloir inventer, comme vous l'avez dit, une nouvelle mobilité. Hein.
Alors, on parle beaucoup, je pense que vous avez entendu parler de la ville du quart d'heure, donc de refondre les villes pour avoir des mobilités différentes. Mais on peut aussi se poser la question au travail, de repenser le travail. Est-ce que finalement, le déplacement, c'est une perte de temps ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose, dans l'imaginaire, quelque chose où on va redécouvrir la joie du déplacement, mais autrement ?
Merci Valérie Mas d'être venue sur Europe 1. Mon prochain invité, c'est Christophe Bouton. Il vient justement de consacrer un livre à l'accélération de l'histoire. Il y a un rapport.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Christophe Bouton.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Vous publiez L'accélération de l'histoire aux éditions du Seuil. Voilà le genre d'expression qu'on utilise très souvent à notre époque. Or, l'idée que l'histoire s'accélère, ça date du 19e siècle. Ça vient avec l'idée de liberté, au fond, et ça découle du progrès des sciences et de la technologie.
Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est d'abord une idée politique liée à la Révolution française. Marx disait que les révolutions sont les locomotives de l'histoire, ça accélère les changements. Et après, vous avez la révolution industrielle, avec accélération de la vitesse des transports, de la vitesse de production, et puis aussi de la communication qui va apparaître encore plus au XXe siècle.
Oui, parce qu'on a l'impression qu'au XXe siècle, l'idée de l'accélération de la vitesse prend son essor, et qu'au 21e, donc aujourd'hui, on va commencer à parler de l'accélération du temps. Au fond, cette idée de l'accélération de l'histoire, de la vitesse, du temps, c'est une vieille histoire, mais qu'on ressent tous, chacun à notre manière.
C'est vrai, et je pense que entre la fin des Lumières aujourd'hui, ce sentiment d'accélération est de plus en plus ressenti, répandu, peut-être aussi parce que le rythme de nos vies augmente. Il y a la question de l'accélération, mais aussi la question de l'urgence, de l'agenda, de la rentabilité du temps, qui fait qu'on vit cette accélération, je dirais, au ras du sol, au quotidien, en plus de voir dans cette accélération une vision globale de l'histoire.
Mais alors, Christophe Bouton, et c'est un peu le sens de votre livre, l'accélération de l'histoire, est-ce que c'est une notion historique sérieuse ou est-ce que c'est une simple métaphore, une espèce de fourre-tout que l'on répète tous sans vraiment l'analyser, au fond ?
C'est un peu le risque des grandes généralités. Moi, je me méfie des jugements globaux qui identifient la modernité à l'accélération de l'histoire ou de la société. En fait, il y a des accélérations en fonction des époques, des contextes, et j'ai essayé de les distinguer, notamment l'accélération technologique, l'accélération politique. Et donc, c'est une notion qu'il faut prendre avec prudence et qu'il faut mettre au pluriel, en fait.
Mais l'accélération, elle est réelle ou bien il s'agit d'une hallucination collective ?
Alors, elle est réelle au sens où il y a quand même des phénomènes historiques qui se mesurent au niveau des transports, de la production, évidemment, de la télécommunication. On le voit avec le développement des portables aujourd'hui, d'Internet. On a une accélération de la circulation des informations. On ne peut pas le nier. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de phénomènes qui n'entrent pas dans cette logique de l'accélération. C'est ça que j'ai voulu montrer aussi. Vous avez un intérêt pour la tradition, le passé, le devoir de mémoire qui n'entre pas dans ces logiques-là. Et puis, vous avez un rapport à l'avenir, notamment aujourd'hui, le souci pour les générations futures, qui ne correspond pas à des schèmes de l'accélération.
Par exemple, la guerre en Ukraine, à laquelle on assiste aujourd'hui à travers nos postes de télévision, mais aussi sur nos ordinateurs, elle n'a pas accéléré cette guerre en Ukraine par rapport à d'autres guerres.
Alors, ce qui est très frappant, c'est que Poutine a voulu faire une blitzkrieg.
Il aurait aimé faire
une guerre éclair, mais ça n'a pas été le cas. Il y a en fait une sorte d'inertie de la guerre, d'ailleurs que Claude Zitz avait déjà évoqué, qui fait qu'on assiste à une guerre plus classique qui ne se règle pas en quelques jours, en quelques semaines. Et donc ce schéma de l'accélération ici est clairement mis en défaut.
L'accélération n'est plus non plus liée à la libération des individus, ni au progrès comme au départ. C'est plutôt vécu aujourd'hui comme une menace.
Oui, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, on voit dans l'accélération des progrès technologiques et scientifiques quelque chose de positif. Au fond, je me suis demandé, qu'est-ce qui fait qu'on dit que l'accélération est positive ou négative ? Et là, effectivement, on voit une évolution des jugements de valeur, parce qu'aujourd'hui, on voit les limites du progrès, on voit les conséquences de l'accélération technologique, et donc cette accélération est vécue comme éventuellement dangereuse, notamment dans le cadre de l'Anthropocène, mais aussi parfois comme dénuée de sens, un peu comme, je compare ça à un train fou sans pilote, qui risque de finir par dérailler.
Vous avez cité l'Anthropocène, il faut rappeler ce dont il s'agit.
Un certain nombre de penseurs, de scientifiques, considèrent qu'on est entré dans une nouvelle ère géologique, qui serait l'époque de l'homme, c'est-à-dire une époque, d'où le nom Anthropocène, où l'homme va modifier les équilibres fondamentaux de la nature au sein de la Terre, et notamment le climat. Et dans cette période, alors qui est débattue parce que les géologues n'ont pas encore validé cette époque géologique, j'ai repéré l'idée d'une grande accélération, qui est quelque chose de très concret, c'est-à-dire que tous les facteurs qui mesurent la dégradation que les activités humaines produisent sur l'environnement et la nature augmentent de façon exponentielle. La déforestation, la chute de la biodiversité, l'augmentation de la température, mais aussi la fonte des glaciers, l'augmentation des gaz à effet de serre. Tous ces phénomènes, depuis la moitié du XXe siècle, augmentent de plus en plus vite. Et c'est ce qu'on a appelé la grande accélération. Et ces nouvelles formes d'accélération qui créent un nouveau défi politique aujourd'hui.
Et cette grande accélération, Christophe Bouton, on la ressent, les hommes, l'humanité la ressent ?
Alors, en réalité, il faut la mesurer pour la voir. Parce que finalement, par exemple, l'accumulation de plus en plus rapide des gaz à effet de serre, elle est complètement invisible. Ensuite, ça se mesure. Et après, on fait le lien avec la température. Et là, quand même, je pense qu'on commence à sentir les effets parce qu'il y a plus de vagues de chaleur, plus de canicules, de sécheresses. Il y a des inondations, des événements climatiques dramatiques qui sont associés à ce phénomène de la grande accélération.
On continue de parler de l'accélération de l'histoire avec Christophe Bouton, juste après ça.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Christophe Bouton est professeur de philosophie à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Il publie L'accélération de l'histoire aux éditions du Seuil. Alors, s'agit-il d'un mythe ou d'une réalité, cette accélération de l'histoire Vous, quand vous y pensez, là, quand je vous dis l'accélération de l'histoire, vous la ressentez ou vous vous dites, au fond, c'est une formule? Mais c'est une belle formule.
C'est une formule qui nous invite à réfléchir et qui est le signal qu'il y a quelque chose qui se produit dans notre rapport au temps, à l'avenir. Et je dirais qu'il y a des accélérations. Il y a des processus d'accélération, notamment celle que j'évoquais sur la grande accélération liée à l'Anthropocène. On voit bien aussi qu'il y a une accélération du rythme de vie. Hein, c'est-à-dire que les études sociologiques montrent que les gens ont le sentiment, enfin, dans les sociétés occidentales, de vivre dans l'urgence, de manquer de temps, de ne jamais avoir assez de temps.
Oui, et même c'est là où on parle d'accélération du temps, mais au fond, on sait pourquoi. C'est parce qu'au fond, on fait beaucoup plus de choses en même temps qu'autrefois.
Oui, tout à fait. Il y a ce que j'appelle une densification du temps, des activités. Et ça, c'est quelque chose de très concret, de très tangible, ce que j'avais appelé le temps de l'urgence, à la fois comme un rapport au temps et puis aussi une époque. Et l'accélération, je dirais, de l'histoire, c'est un peu le cadre général à l'intérieur duquel se fait cette expérience au quotidien. Mais c'est une expérience qui n'est pas monolithique, qui va dépendre aussi des milieux dans lesquels on vit, de la classe socio-économique à laquelle on appartient. Donc je me méfie quand même des diagnostics trop monolithiques, mais on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a pas de tendance à l'accélération.
Alors qu'est-ce qui pourrait faire l'accélération de l'histoire ? C'est l'idée que le passé, qui était forcément plus humain, disparaît à vue d'œil. Ce serait ça, hein, qui serait consubstantiel à cette accélération. Dès qu'on se retourne, on se dit « Oh là là, il n'y a déjà plus rien. Le passé a déjà complètement disparu. »
Alors oui, c'est un peu comme quand on va très vite dans un train. L'avenir arrive à toute vitesse et le passé disparaît à vue d'œil. Et ce qui fait qu'un des aspects de l'accélération de l'histoire, c'est pas le seul, c'est l'idée que finalement, on n'a plus le temps de se retourner vers le passé. On est dans une sorte de présent continuel. Et par conséquent, on perd quelque chose de ce rapport au passé. Regardez la pandémie. On en a parlé pendant 2 ans et aujourd'hui, on est passé à autre chose. Déjà, on a l'impression, alors qu'elle n'est pas finie en plus. Vous voyez, c'est cette idée que les événements défilent à toute vitesse et disparaissent sans qu'on ait le temps de se retourner, de les analyser. C'est un aspect, pas le seul, de l'accélération.
Il y aurait une dictature du présent.
Oui, alors l'une des conséquences de la rupture avec le passé et d'un avenir qu'on n'arrive pas à anticiper, hein, parce qu'il est déjà arrivé, est très imprévisible. Cette idée, là on peut mentionner François Hartog, de présentisme, qui est l'un des aspects importants du rapport au temps. C'est-à-dire, on est dans le court terme, dans, je dirais, les informations en continu, l'actualisation perpétuelle. Et ça contribue aussi à ce sentiment d'urgence et d'accélération.
On n'a plus le temps de s'en soucier de l'avenir. Au même moment, l'idée que la Terre risque bientôt de ne plus être habitable et que l'on assiste aux premiers effets du réchauffement climatique, ça aussi, ça participe, vous l'avez dit, de l'accélération de l'histoire. Mais justement, la pandémie de Covid-19, elle a mis à l'arrêt la planète. Est-ce qu'elle n'a pas signifié la fin de l'accélération de l'histoire ?
Tout à fait, ça a été une sorte de grande décélération forcée qui a montré d'ailleurs que la politique avait quand même un certain pouvoir sur l'économie, puisque certes dans un contexte très grave de crise, elle a mis à l'arrêt l'économie pour sauver des vies, et du coup on s'est retrouvé dans une décélération forcée, pénible il faut bien dire, qui montre néanmoins qu'on peut, je dirais, avoir une action politique sur ces processus d'accélération. Malheureusement, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu une réaction très forte par rapport à l'urgence sanitaire, qui était souhaitable, mais en ce qui concerne l'urgence climatique, les réactions sont beaucoup plus timides. Et on est un peu reparti dans une logique de croissance, de développement, avec des échéances du GIEC qui sont indiqué dans le dernier rapport, mais qui semble rester un peu lettre morte pour le moment.
Mais justement, alors même qu'on ne cesse de parler de l'accélération de l'histoire, de l'accélération de la vitesse, de l'accélération du temps, on se retrouve devant le constat qu'il faudrait décélérer. Vous l'imaginez, vous, décélérer, que toute l'humanité, tout à coup, décélère ?
Alors, c'est d'abord, quelque part, une contrainte qui va s'imposer, pour les générations futures, mais aussi pour le futur des générations présentes. Et puis ensuite, il ne s'agit pas de renoncer complètement à la technologie, mais je pense qu'il faut une sobriété énergétique et ensuite développer des énergies renouvelables qui permettent non pas de s'arrêter, ce qui était un peu le problème de la pandémie, on n'a même pas décéléré, on a stoppé, mais ralentir au moins.
Oui, c'est l'idée effectivement qui reste aujourd'hui après cette pandémie de Covid. Enfin, comme vous l'avez dit, elle n'est peut-être pas terminée non plus.
En plus, oui.
Ouais. Mais elle avait ceci de particulier que tout à coup, on ne parlait plus que de ça. Donc, on a eu l'impression aussi d'être à l'arrêt ou de décélérer parce qu'on ne parlait plus que d'un sujet.
Oui, tout à fait. Et puis, on a découvert que l'arrêt n'était pas forcément catastrophique, même si je pense qu'il faut mieux faire un ralentissement planifié qu'un arrêt brutal subi.
Merci Christophe Bouton. L'accélération de l'histoire, ça vient de paraître aux éditions du Seuil.
Merci à vous.
Europe 1.